Et il est question dans ce magazine aujourd'hui du livre « Un orage à Lozière » de l'autrice Marie-Christine Matré. Un livre qui vient de sortir. Ce cinquième livre sur le patrimoine de l'Hérault est un roman du terroir. L'histoire se passe au village de Lozière sur la commune d'Octon. Marie-Christine Matré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur, je vous avais reçu déjà il y a quelques années, le temps passe très vite, je ne sais plus quelle année c'était. Mais
2013 pour mon premier livre.
Voilà, vous êtes originaire de l'Hérault ou pas ?
Non, je ne suis pas originaire du tout de l'Hérault, mais je suis convaincue que c'est une région, je suis admiratrice de cette région pour son patrimoine, son histoire, sa géographie. Oh, je suis installée dans l'Hérault depuis 15 ans environ.
Alors, vous venez de sortir ce livre, Un orage à Lozière, proche du Salagou.
Oui, c'est un très vieux site, le site du village de Lozière et de son château, anciennement une forteresse, passablement ruinée, mais encore avec de très beaux restes. Et c'est le plus vieux site d'Octon, en bord du Salagou.
Comment est né ce projet de livre sur Lozière ?
Bon, le projet, vu que dans l'ancienneté, il y avait déjà 4 livres sur le patrimoine, j'ai fait des recherches aux archives de Pierre Vive à Montpellier, et c'est en trouvant ce que j'appellerais des petites pépites authentiques dans les microfilms et les gros rouleaux qu'on passe à la main en 1600 et quelques, que j'ai découvert des choses qui m'ont vraiment donné envie de faire connaître et de faire savoir sur la vie des gens ici au 18e.
Comment ça se passe quand on est aux archives départementales Pierre Vive à Montpellier? Il y a une demande en amont, puis ensuite c'est accepté en général. Et vous venez sur place, vous faites des recherches et vous avez à disposition donc des archives que vous scrutez. Comment ça se passe?
Disons, comme ce n'est pas la première fois, j'ai eu un mot de passe, j'ai une carte. Et quand on arrive, le lieu est splendide. Il faut aller aux archives un jour pour voir ça, c'est splendide, hyper moderne. Est très lumineux et très bien préparé pour des recherches avec des bureaux individuels, des ordinateurs. Donc on dépose sa recherche, ça il faut connaître quand même ce qu'on cherche, sinon on est aidé. Et on attend quelques minutes et quelqu'un va nous donner le microfilm ou nous apporter la bobine, parce que ça peut être de la grosse bobine si c'est vraiment très ancien, à tourner à la main. C'est folklorique aussi, ça.
Et qu'est-ce que vous recherchiez exactement? Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Peut-être quelque chose que vous ne cherchiez pas.
Alors, le but, c'est très, très, très précis. J'y suis allée parce que je suis dans l'association de Lozière et je suis allée avec le propriétaire, M. Simon, qui voulait en savoir plus sur les visites pastorales qu'il y a eu à son église du château dans les siècles précédents. Il voulait savoir le nom, et on a su d'autres choses, en fait. On a bien trouvé le nom. En 1631 et 1659, c'était l'église de Saint-Jean l'Évangéliste de Lozière. Et on a trouvé aussi qu'il y avait 2 cloches de 300 et 400 kilos. Ce qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui, elles n'y sont plus. Donc c'est ça qui m'a permis de voir les visites pastorales. Vous voulez que je développe les...
Oui, juste à savoir, c'est 1631, sont les documents les plus anciens que vous avez
retrouvés. C'est ce que j'ai trouvé pour le moment, mais je pourrais peut-être voir si d'autres ne sont pas encore accessibles, mais on peut peut-être demander, je regarderai. Donc en 1631, l'évêque de Lodève, et en 1659, c'est les 2 recherches que j'ai faites, passait régulièrement, tous les 4-5 ans, faire un inventaire des petites chapelles et églises éloignées. Donc l'inventaire veut dire ceci est à réparer, ceci est à changer, ça c'est voilà. Et donc tout ça a été mis par écrit et c'est une mine d'or pour ceux qui cherchent comme moi des détails sur le passé.
Et Lozière qui est aujourd'hui un village fantôme puisqu'il n'y a personne, mais à l'époque il y avait des habitants.
Oui, il y a eu du monde à Lozière, mais quand même lointain, hein, c'est quand même 17e. Même avant, puisque avant c'est quand même un château seigneurial d'une des plus grandes familles du Languedoc, les Lozière-Thémines, avec des beaux mariages et beaucoup de terres et de propriétés, puis des ancêtres connus comme Ponce de Lozière-Thémines, très important ce Ponce. Il était caporal des gardes de Louis XIII, maréchal de France, sénéchal du Quercy, gouverneur de Bretagne, etc. Et dans ses descendants, il y a eu une héritière aussi, très importante parce que petite anecdote aussi, c'est que les ancêtres de Lozière, les seigneurs, avaient bien mis par écrit au XIIe siècle que le château ne devait jamais aller dans les mains d'une femme. Seulement, il y a eu des guerres, il y a un moment, beaucoup de guerres, les guerres de religion, la guerre de 30 ans. Et il est arrivé un moment où il est resté qu'une femme de son sang héritière.
Parce que les hommes partaient au front.
Et ils sont tous morts aux guerres. l'arrière-grand-père, l'oncle, le frère, et elle est restée toute seule. Et c'est Catherine de Lozière-Thémines. Et elle a fait aussi un très beau mariage. Elle a épousé le duc d'Estrées. Elle est devenue duchesse d'Estrées. Voilà. Et après, les châteaux étaient repassés en d'autres mains, deux autres fois, dans d'autres familles.
Est-ce qu'il y a un fil conducteur dans ce livre, Marie-Christine ?
Alors, il y a deux fils conducteurs. Et il y a le fait que ces archives en elles-mêmes, ce sont des choses que j'ai recopiées. Mais ce n'est pas très agréable à lire comme ça, c'est un peu administratif. Donc j'ai inventé une petite trame, une petite énigme sur laquelle j'ai greffé, beaucoup de dialogues, j'ai greffé mes archives. Donc ce que j'ai lu, je le fais dire dans la parole, dans les échanges des gens, des paysans de Lozière, d'Octon, de Salasque, de Gignac, par des colporteurs, par des maréchals. Par le maréchal Ferrand, et l'autre fil, ce serait le curé Barthélemy Duguesse, qui est de Salasque. Il a été prêtre à Salasque, mais aussi vicaire à Octon, à Lozière et à Chapelle de Roubignac. On a toujours le pèlerinage aujourd'hui. Et donc ces deux éléments, la trame mystérieuse, plus ce curé qui va passer les années 18e là-bas et qui va intervenir beaucoup pour aider ses paroissiens.
C'est incroyable tout ce qu'on peut trouver aux archives oui. départementales. C'est une mine d'or.
Oui, c'est une mine d'or et c'est un plaisir pour moi d'y aller.
Et dans ce livre, vous mettez à l'honneur l'Occitan.
Oui, je mets l'honneur à l'Occitan parce que, outre ces grandes familles, il y avait quand même des gens du peuple, si on peut dire entre guillemets, qui habitaient là. Donc ces habitants à Lozière, à Octon, ils témoignent aussi d'un 18e siècle mouvementé. Et à Lozière, j'ai fait parler souvent une Antoinette qui a un bagou, qui est dégourdie. Et Antoinette, de temps en temps, je la fais parler en occitan par la connaissance de M. Denis Ferrier, qui parle très bien l'occitan et qui m'a donc traduit quelques phrases comme ça pour donner de l'authenticité.
Est-ce que le livre suit un ordre de date chronologique ou pas ?
Alors, oui, il y a un ordre chronologique. Ça démarre tout de suite par un vol à Lozière, une nuit, un vol. Les gens vont penser à l'apercevoir, mais l'église va être cambriolée. Et j'ai fait quatre entrées dans le temps. Donc là, c'est en 1659, avec quelquefois des archives de 1631. Ensuite, je vais terminer en 1742. Ça se termine aussi à Lozière. Mais entre-temps, il va se passer plein de choses sur la chapelle de Roubignac, un petit peu aussi dans les Vermandes, où il y a eu des raisons pour que ça aille là-bas. C'est en fait le plus vieux prêtre, la plus grande cure de Lozière, a été occupé par un prêtre de Mende. Donc quatre entrées dans le temps et des énigmes à chaque fois.
Marie-Christine, est-ce que je peux vous demander de nous lire un petit passage de ce livre ? C'est possible ?
Oui, je peux lire... le petit passage où le curé de Lozière est obligé de rendre compte à l'impressionnant évêque de Lodève du vol qui a été commis dans son diocèse. Et ce n'est pas une mince affaire parce qu'il est très impressionnant, l'évêque Roger de Harlay.
On vous écoute.
Oui, donc je vais vous lire un petit passage. C'est lorsque le cambriolage a eu lieu et que le prêtre de Lozière est obligé, c'est normal, d'aller rendre compte à l'évêque de Lodève qui n'est pas très agréable et très strict, qui c'est Roger de Harlay. Donc, dans les jours qui suivirent, le curé de Lozière alla à l'évêché de Lodève pour déclarer le vol auprès de ce nouvel évêque, sacré depuis un an, et ce n'était pas une mince affaire. Roger de Harlay de Saisy, qui signait simplement Roger E. de Lodève, était fils de l'ambassadeur de Constantinople. Il avait un fort caractère et sa prestance sévère n'incitait pas à la confidence. Donc, je vais vous lire un petit passage du dialogue. Ce jour-là, il avait son air des plus austères, vêtu de sa soutane noire et aussi d'un raban noir à deux pans bordés d'un liseré blanc, une large ceinture, etc. À peine le prêtre de Lozière eut-il commencé à relater les faits que l'évêque de Lodève se lève d'un bond. « Quoi ? » s'écrie-t-il. « Tous les ornements et même la nappe d'autel qu'ont-ils à faire d'un linceul ?»« Monseigneur, il était magnifique, en camelot blanc brodé or et certaines chasubles. »« Quoi ? Des chasubles aussi ?» Juste quelques-unes, les plus belles, dont celles en damas rouge et les étoles en satin blanc. Debout, devant le grand bureau de l'évêque qui le fixe, de son regard de rapace avec l'envie de fondre sur lui, le pauvre prêtre ne sait plus où se mettre. Ses mains moites se crispent et ses réponses maladroites n'arrangent rien. et le tableau de Notre Seigneur en croix avec la Sainte Vierge et le Saint Jean, présent lors de la visite pastorale de 1631. Et le vase en Saint-Omer, demande l'évêque en baissant le ton, conscient de l'effet catastrophique de sa voix sur le curé. Voilà. Donc, c'est un passage que j'ai voulu assez vif, avec des dialogues forts, parce qu'en fait, ce pauvre curé, il fallait qu'il aille rendre compte. Mais c'était le début de l'histoire, ce vol, parce qu'en fait, dans ce vol, c'est le départ de l'énigme qui va aller jusqu'au bout, jusqu'à la dernière ligne du roman.
Marie-Christine, c'est une véritable passion pour vous de rechercher l'histoire de notre département, de ces petites communes, de ces petits lieux. Vous avez d'ailleurs sorti il y a quelques années un livre sur Vaillant.
Oui. Oui, oui, j'ai emménagé à 7 ans à Vaillant et régulièrement les gens me disaient « Vous connaissez la légende de Vaillant ?» Alors bien sûr je ne la connaissais pas, donc je me suis renseignée, j'ai fait des recherches aussi auprès de ce que de précédents historiens avaient écrit. Et muni de tout ça, bien j'écris un petit livre, il doit faire à peine une centaine de pages, sur la légende des sept vaillants. Au passage, je peux dire que la légende des sept vaillants a un point commun avec Lozière, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où les deux ont eu un seigneur qui est parti pour une guerre lointaine, qui a duré très longtemps, voilà, c'est ça. Et en fait, c'était le départ des croisades sur Jérusalem.
Et vous avez également vécu à Caux, ce village en circulade.
Oui, beau vieux village,
Caux. Beaucoup d'histoires à Caux aussi.
Et là, c'est pareil. C'est pareil, les gens m'ont dit, mais là, ici, on a un brigand. Bon, il n'y a pas tellement de quoi d'être fier, mais ce brigand Pomarade, il a tellement fait parler de lui. Puis il a fait guillotiner à Pézenas, on dit, en présence de 50 000 personnes. Et donc, je me suis dit, comme d'habitude, je vais aller voir ce que je trouve à Pierre-Vive. Et à Pierre-Vive, j'ai demandé le compte-rendu du procès de 1831. Et là, on m'a apporté des dossiers énormes de vieux papiers dedans. J'ai trouvé 6 complaintes authentiques de l'époque. À l'époque, les complaintes, on diffusait sur des papiers les paroles et les airs étaient dits comme des airs très connus. On disait sur l'air de l'opéra, de tel opéra, ce qui fait que les gens pouvaient facilement chanter. Et j'ai trouvé aussi une complainte de 11 pages en occitan. Et du citant du terroir, c'est-à-dire que les gens du pays n'arrivaient pas vraiment à traduire. Et là, j'ai eu l'aide du SIDOC de Béziers. Je remercie 2 étudiants qui m'ont traduit approximativement, parce que c'est assez subtil l'occitan, voilà, qui m'ont traduit. Et je les ai publiés dans mon livre « Les effroyables complaintes du 19e siècle, l'affaire Pomarède ».
Et je reviens sur ce livre, donc « Un orage à Lozière ». Quelques mots sur la préface de ce livre ?
Alors, j'ai eu une préface de l'historien Philippe Huppé, une préface qui est très bien parce qu'en fait, elle résume toute l'histoire de la famille Lozière-Thémines, du départ des premiers seigneurs jusqu'aux derniers qui ont apparemment touché la cour de France. Voilà, donc je remercie Philippe pour cette belle préface.
Et puis, je vois aussi que vous êtes venu avec une plaquette. Elle est sur la table. De quoi s'agit-il ?
Alors, c'est la plaquette du château de Lozière qui a été publiée par l'association de sauvegarde du village et du château de Lozière, dont les propriétaires sont monsieur et madame Simon. Et donc, il y a une petite préambule avec l'histoire du château, la description, les références. J'en profite pour dire, tiens, que c'est vrai, je les ai vus récemment, là. L'association propose des sorties scolaires pour qui veut. Je vais les diffuser sur la page Le Château de Lozière sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, une plaquette qui explique l'histoire du château.
Et puis, Marie-Christine, vous allez proposer des dédicaces sur ce livre, Un orage à Lozière. Rendez-vous donc le samedi 21 octobre, ce sera à Octon, c'est ça ?
Le 21 octobre, c'est à Octon, à 16h. Juste après le rendez-vous avec la presse. Et c'est chez Fabrice, le café-restaurant d'Octon, plein centre du village, à côté de la fontaine. Et aussi le 28 octobre, à l'espace d'un rêve, la librairie de Clermont-Lérault. C'est à 10h30. La librairie, c'est rue...
Doyen René Gosse.
Voilà, exactement.
Comment est-ce qu'on peut se procurer ce livre ?
Alors, ce livre se procure principalement par les associations qui m'ont soutenu, à savoir l'association du château de Lozière, mais aussi l'association du Mas des Terres Rouges, une association qui travaille sur les communes autour du lac du Salagou. Il y aura un dépôt aussi à la librairie de Clermont-Lérault, et puis auprès de moi. Voilà, tout simplement, donc je peux diffuser mon adresse comme vous voulez.
Nous arrivons au terme de ce magazine. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?
Oui, je vais simplement dire que c'est une super aventure d'écrire un livre avec la matière première, tout ce que j'ai trouvé aux archives, parce qu'il y a quand même des anecdotes. Hein. Et moi, quand j'ai lu qu'à Canette, ils étaient obligés de fabriquer des radeaux pour porter du pain au deuxième étage des maisons, je me suis dit ça, mais personne ne le sait. Puis c'est intéressant ce qui s'est passé en 1766. Donc c'est une aventure. Et puis là, c'est vraiment ma première façon, mon premier roman, si on peut dire. D'habitude, je reste très près de la réalité, très archiviste. Et là, il y a un roman quand même.
Quel est votre prochain projet ?
Eh bien, pour le moment, j'en ai pas.
Bah, ça viendra.
Je sors de celui-ci, là. Mais il y en aura forcément un autre.
Merci Christine Matré, auteure. On vous invite à découvrir ce livre. Donc, Un orage à Lozière, sorti chez...
Ah, il est sorti, je suis en auto-édition.
Oui, c'est un choix.
C'est un choix, parce que c'est tellement local, tellement précis, et que ça concerne tellement la vie quotidienne des habitants des petits villages de l'Hérault. Je n'ai pas vu l'intérêt de diffuser ça dans toute la France. Voilà, je suis restée locale.
Marie-Christine, je vous souhaite une très belle journée.
Merci,